temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Il me fait plaisir de souligner qu'aujourd'hui, nous amorçons notre 10e saison. Merci à vous pour votre fidélité au gré du temps. Vous êtes toujours plus nombreux à ce rendez-vous radiophonique, un moment unique et magique à partager avec nos invités. Continuez d'ailleurs à nous adresser vos commentaires. Nous aurons encore cette année des personnalités remarquables qui viendront partager quelques souvenirs, quelques réflexions et nous proposer leurs choix musicaux pour notre plus grand plaisir. Et pour amorcer cette 10e saison, nous accueillons celui qui fut journaliste, présentateur et chef d'antenne à TVA, Argent, mais aussi un animateur chevronné à la radio, on pourrait dire un animateur hors pair, François Gagnon est avec nous. Bonjour, François.
Bonjour, Armand.
Ben oui, vous avez...
Que d'éloges.
Mais vous avez, on vous connaît bien sûr pour ces dernières années à la télévision, mm-hmm. mais vous avez d'abord fait de la radio.
Commencé tout jeune, 18 ans. J'ai commencé à faire de la radio à la Pocatière. Ensuite, je suis déménagé au moment où je me suis marié avec mon épouse vers Edmundston. Le patron de l'époque n'était pas resté longtemps à CGM Edmundston à cette époque-là. Il était parti tout de suite vers Rimouski.
C'était des radios-écoles, pouvait-on dire?
Oh, oui, définitivement. Oui. Les stations régionales, c'est toujours des stations-écoles.
Oui. Mais c'est très formateur.
Ce qui se fait plus beaucoup, malheureusement, aujourd'hui. Les gens arrivent tout de suite dans les grands centres, puis ça dure pas longtemps. C'est éphémère, beaucoup plus qu'autre chose.
Et vous faisiez quoi? Quand on commence à
tout.
La radio, on
faisait
fait tout.
Fait des nouvelles, fait des commerciaux. On fait les textes des commerciaux, on les livre en ondes. On va faire ce qu'on appelait du direct, là, des remotes.
Des remotes, pour
les
de la
fameux
publicité.
Remotes, de la publicité, oui. Etc. On fait tout. On fait exactement de tout. Alors, c'est pour ça que c'est une excellente école. Puis t'apprends à écrire des nouvelles, puis t'apprends à faire toutes sortes de choses.
Et curieusement, quand vous étiez jeune, vous n'étiez pas nécessairement attiré par la radio parce que les sciences vous fascinait et vous fascine encore.
La science de la santé, ça m'a toujours fasciné, la santé. Puis j'ai toujours continué à lire là-dedans, malgré que j'ai un autre dada qui est l'aviation. Là, on peut peut-être en reparler à un moment donné, mais...
On va prendre notre envol
d'abord. Mais quand j'étais aux études, que j'ai commencé à faire de la radio, d'ailleurs, c'est parti d'une gageure, avec le directeur de la station de la Pocatière à cette époque-là, j'étais en train d'arbitrer une game de hockey, un match de hockey, puis c'est lui qui était à l'annonceur maison. Puis je lui avais dit, j'aimerais ça faire de la radio à un moment donné. Bon, ben, il dit, oui, OK, c'est correct. Ben, de toute façon, tu ne me rappelleras jamais. Et finalement, il y a eu une énorme tempête. C'était presque, pour nous, la tempête du siècle. Il y avait de la neige, là, à la hauteur des toits des maisons. Puis là, il n'y a pas un chat qui était capable d'aller travailler. Il m'a téléphoné. Puis finalement, j'ai commencé à faire de la radio comme ça. Mais j'étais en sciences santé à cette époque-là.
Vous destiniez vers la médecine?
Vers la médecine. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la médecine, particulièrement l'ophtalmologie que j'aurais aimé faire.
Ah tiens, pourquoi donc?
Les yeux. J'avais toujours eu de la misère avec mes yeux, puis je trouvais que c'était fascinant, les yeux. Alors, c'était ça beaucoup plus vers quoi je me dirigeais que d'autres choses.
Jamais eu de regret de ne pas avoir fait votre médecine?
J'ai failli y retourner.
C'est vrai?
Oui, parce que je me suis marié, effectivement, en 77. Puis je suis déménagé tout de suite vers Edmundston. Quand je suis allé travailler à Rimouski, à CFR, là, j'ai commencé à faire de la TV. Puis en 79-80, j'ai décidé que je retournais faire ma médecine. Fait que j'ai donné ma démission. Mon épouse a donné sa démission à la Banque nationale. À
c'est vrai. J'ai
changé d'auto. On s'est loué un appartement à la Pocatière parce qu'il me manquait un cours de cégep. Il fallait que je fasse mon cours au cégep, absolument. Puis l'Université Laval m'attendait. Puis finalement, ben, je n'étais pas capable d'avoir de bourse d'études parce qu'on gagnait trop d'argent à cette époque-là. Les bourses d'études, c'est pas comme aujourd'hui. Alors, malheureusement.
Mais vous aviez été accepté à la faculté.
Ouais.
Et aujourd'hui, quand vous y repensez?
Zéro regret. Zéro, zéro, zéro. J'ai continué mon chemin comme... Bon, ça fonctionne pas là. Peut-être qu'un jour, ça fonctionnera. Puis j'ai été chanceux parce que j'avais un sacré bon boss, parce que j'avais démissionné. Ma lettre de démission, il l'avait eu.
Et il vous a repris.
Il m'a repris.
Et vous êtes devenu un docteur de l'économie en quelque sorte. On aura l'occasion d'en parler.
Oui, c'est un autre accident, ça. Parce que ma carrière a été ponctuée d'accidents.
Et vous nous proposez, bien sûr, pour cette première émission de notre 10e saison, on le répète, vous aussi, un beau choix musical. La première, c'est peut-être pas étonnant, cependant, malgré le fait que vous nous avez dit que vous souhaitiez faire votre médecine, vous vous voyiez peut-être déjà sur les marquises à faire de la radio ou de la télévision. Vous nous proposez Charles Aznavour.
Oui, effectivement, c'est un choix que j'ai fait, effectivement, puis je me voyais déjà peut-être en haut de l'affiche, comme disait le grand Charles à l'époque.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Je me voyais déjà Charles Aznavour, choix proposé par François Gagnon, qui est notre invité aujourd'hui. François, vous nous disiez que vous aviez presque amorcé vos études en médecine, puis on disait que vous êtes devenu par la suite un docteur de l'économie, parce qu'on vous a beaucoup, beaucoup vu à la télévision. Pourtant, quand on vous entendait à la radio, vous étiez loin de l'économie. Là, la première découverte qu'on a faite de vous, c'était disque jockey?
Oui, effectivement. Ici, ce qui est devenu Rythme FM maintenant, on appelait ça CFGL. Hein? Ouais. C'était CFGL. Puis, en même temps, je travaillais aussi à TVA. Mais on travaillait ensemble. Moi, j'étais au sport. Je faisais les deux jobs à temps plein. Et à la radio, et à la télé.
Et je me souviens, moi, mon grand étonnement, François, c'est lorsqu'on vous a vu quitter la salle des nouvelles où vous étiez dans un petit coin, où vous faisiez, avec vos camarades des sports, des manchettes sportives. Et un jour, on vous voit apparaître comme chroniqueur économique au moment de l'arrivée d'LCN, n'est-ce pas?
Ben, c'est un petit peu plus tard. Parce que ça aussi, ça a été un accident. Parce que les sports, je voyais que ça s'en allait à TVA. C'est pas le même feeling qu'aujourd'hui, là. Radio-Canada venait de fermer son service de sport. Puis là, je voyais qu'à TVA, il y avait déjà eu des grosses coupures. On avait appelé ça le massacre de la Saint-Valentin, tu dois t'en rappeler. Il restait 3 gars. Jean-Paul Chartrand, moi, et une autre personne dont je me rappelle pas le nom, malheureusement, et j'espère, je m'en excuse pour elle. On était 3. Il restait...
Alain Saint-Louis, peut-être?
Alain Saint-Louis était resté... Non, il est passé dans le tordeur, lui aussi.
Ah oui.
Oui, il était passé dans le tordeur, Alain, pauvre lui.
Jean-François Poirier, alors, non?
Non, Jean-François, il est arrivé après, un petit peu
alors,
plus tard.
Alors, peu importe, mais il en restait un autre.
Bon, là, je voyais que... Là, LCN ouvre, je commence à LCN au sport, et c'était des Olympiques, puis j'aimais plus ou moins ça, les sports à LCN, parce que c'était des capsules, puis c'était tout le temps enregistré, puis j'aimais pas ça. J'allais voir le directeur de l'information à l'époque, et je lui avais manifesté le désir de lire les nouvelles. Il m'avait fait passer une petite audition, il m'a dit « ça marche, je te prends, mais avant, tu vas aller au purgatoire ». Alors, avant d'aller au purgatoire, ça voulait dire être chef de pupitre, ça. J'avais jamais fait ça de ma vie, pupitre à LCN. Alors, j'ai fait ça pendant 6 mois, et finalement, je suis devenu lecteur de nouvelles à LCN pendant 1 an. Là, Sylvain Chamberlain est arrivé comme directeur de l'information, puis là, lui, il tripait vraiment sur l'économie. Puis il m'avait dit, « Hey, coudon, tu fais des rapports d'impôts, tu connais ça un peu, l'économie, ça ne te tentera pas de faire des capsules? » Fait que finalement, je commence à faire des capsules économiques à LCN. Je me sentais plus ou moins à l'aise, fait que j'ai décidé de retourner à l'école. Alors, je suis retourné à l'école, à l'Institut canadien des valeurs mobilières. J'ai suivi mon cours en valeurs mobilières. J'ai suivi quelques cours à l'université, des cours de formation également. Puis, je suis devenu chroniqueur financier par la suite. Alors, c'est comme ça. Ça a été un autre accident.
Vous êtes un persévérant, peut-on dire.
Oui.
Peut-être que vous l'attendiez, cette fonction. En tout le moins, Michel Delpech, lui, nous dit que je l'attendais.
Elle fait tourner sa cuillère dans son thé. À quoi pense-t-elle dans sa tête? Je ne sais rien d'elle, on s'est connus hier. Une nuit, ce n'est qu'un début, mais elle aussi a l'air un peu perdue. Est-ce qu'elle devine que je l'aime, qu'elle me bouleverse déjà depuis hier? Je l'attendais, oh comme je l'attendais. C'est elle exactement, c'est elle que j'attendais. Une fille comme elle, c'est ça que j'attendais. Elle s'assoit sur le canapé. J'ai l'impression qu'elle aimerait bien rester. À quoi pense-t-elle? Qui est-elle? Je ne sais rien d'elle, on s'est connus hier. Je l'attendais, oh, comme je l'attendais. C'est elle, exactement, c'est elle que j'attendais. Une fille comme elle, c'est ça que j'attendais. Je l'attendais, comme je l'attendais. C'est elle, exactement, c'est elle que j'attendais. Une fille comme elle, c'est ça que j'attendais.
François Gagnon, je l'attendais, Michel Delpech, il y a une raison à ça?
Oui, c'est, ça remonte à l'époque où j'ai connu ma femme, ça.
Ah, vous l'attendiez.
Ouais, ben, c'était une série de chansons, c'est un disque de Michel Delpech. Il y avait toutes sortes de chansons là-dessus, dont Les Divorcés, malheureusement. Mais celle-là, il est complètement...
Qui a connu un succès phénoménal.
Mais je l'attendais peut-être un peu moins à l'époque, un petit peu plus. Là, puis il y avait mon père là-dessus, puis il y avait toutes sortes de chansons. Là. Puis celle-là m'avait marqué. Puis j'avais dit, garde, moi je t'attendais. Puis c'est ça que ça voulait dire aussi, cette chanson-là.
Alors, revenons donc aux sources de l'évolution de votre carrière. Donc, vous êtes passé de pupitre à lecteur à LCN, puis finalement, vous avez boutissé après avoir eu quand même, peut-on dire, le courage de retourner aux études en valeur mobilière et d'aller faire vos classes, c'est le cas de le dire.
Définitivement.
Vous vous retrouvez en économie.
Mais je me suis retrouvé, j'ai été chanceux, j'avais deux personnes dans la vie qui m'ont beaucoup aidé. Puis c'est pas les moindres. Clément Gignac, qui était le meilleur économiste au Canada à l'époque. Carlos Lytle, qui était celui qui a pris la place quand Clément a décidé de se lancer en politique. J'ai eu deux mentors, principalement Clément, parce que Clément, il y a eu tout de suite la crise de septembre 2001, à cette époque-là, c'est quand même il y a 15 ans. Là. Puis là, l'économie mondiale...
Mais c'est un bon prétexte pour apprendre quand on est en crise.
Tu sais, regarde, c'est un drôle de contexte quand même, il faut quand même l'avouer, là, parce que là, tu te dis qu'il n'y a plus rien qui fonctionne pendant 5 jours, les banques ne sont plus capables de s'approvisionner. Comment ça marche?
Mais c'est ça que je dis, c'est le meilleur moyen de voir...
Et là, Clément m'a tout enseigné.
Ouais.
M'a tout enseigné. C'était véritablement...
Et cette, j'ose dire, cette piqûre pour l'économie, vous l'avez tout de suite eue?
Ben, je l'avais déjà un peu, parce que moi, j'étais un gars qui, à l'époque, à Rimouski, j'avais fait faire mes impôts chez le comptable du coin, là, là-bas, c'est une grosse firme comptable, je ne la nommerai pas parce que ça n'a aucun rapport, mais j'avais quand même certains revenus autonomes, ça m'avait coûté 150$ en 77. J'avais trouvé ça cher un peu. Fait que j'ai dit, je pense que je suis capable de faire ça. Moi, là, un rapport d'impôt, comment on regarde ça? Puis, fait que de fil en aiguille, j'en fais un. Je fais le mien. Je fais celui de ma femme. Je fais celui de mes beaux-parents. Puis là, je lis ma tante. Puis mon oncle. Puis là, j'en rajoute. Puis ça s'arrête là parce que je suis déménagé à Montréal. Mais à Montréal, j'ai continué quand même à faire de la comptabilité et faire de la comptabilité et faire des déclarations de revenus. Puis là, de plus en plus. Puis là, les collègues de travail. Puis là, j'ai vu qu'il y avait peut-être un petit peu de sous à faire avec ça. Fait que là, j'ai parti ma compagnie cette année. Alors, j'ai décidé de partir ma compagnie de comptabilité à la maison. Puis, c'est une bonne
façon de passer. Parce que maintenant, vous n'êtes plus présent à la télévision.
Non, du tout.
Mais vous êtes toujours aussi occupé.
Très. Ça, c'est ce qu'on appelle une retraite active.
Présentez-nous votre prochain choix musical.
Ben, la source, c'est bof. C'est Jean Ferrat, c'est-à-dire, et Isabelle Aubry. C'est quand même une chanson qui était extrêmement populaire dans les années 70. Ça a joué, ça a fait tout le tour du monde, cette toune-là. Et si je me rappelle bien, elle avait gagné l'Eurovision avec ça. Je pense que oui. Alors, je pense que c'est 73, 74, dans ce coin-là, je pense. En tout cas, Isabelle Aubry qui chantait la source. Ben, en fait, c'était une reprise de Jean Ferrat.
Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Elle était blonde, elle était douce, elle aimait à se reposer dans le bois, couchée sur la mousse, écoutant les oiseaux chanter. Un jour qu'elle allait à la ville, par le bois où elle passait, elle vit soudain immobile trois hommes qui la regardaient. Trois hommes qui la regardaient. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Étaient là trois à l'attendre, trois hommes loups, cette brebis. Elle avait la chair bien trop tendre, ils avaient bien trop d'appétit. Elle ne savait pas défendre le souffle léger de sa vie. Elle tomba sur l'herbe tendre comme un oiseau tombe du nid. Un oiseau tombe du nid. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Quand on l'a soulevée de terre comme une grande fleur coupée, chercher la lumière, on aurait dit une mariée. Quand on l'a soulevée de terre, on aurait dit comme un grand lys. Entre les feuilles, entre les pierres, une claire source a jailli. Une claire source a jailli, elle chante au milieu du bois, la source. Et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. S'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva.
François Gagnon est avec nous au gré du temps. François, est-ce que vous êtes originaire de Montréal? Parce que vous avez travaillé à Edmundston au Nouveau-Brunswick.
Non, La Pocatière.
La Pocatière.
Je viens de La Pocatière.
Ce qui vous a amené justement à vous retrouver de l'autre côté, un petit peu plus à l'est, au Nouveau-Brunswick.
Oui.
Et finalement, vous entrez par la porte de la télé à CFER, en bas du fleuve. Et ça, c'est une belle expérience parce que la station était toute nouvelle.
C'était tellement neuf que pendant que je lisais le bulletin de nouvelles du 22h à l'époque, parce qu'il y avait un bulletin de nouvelles régionales à 22h, il y avait encore des techniciens qui soudaient des fils à l'arrière de moi. C'était pas terminé. Alors, c'était une excellente expérience, parce que là aussi, ça commençait la télévision, là, tu sais, pour nous. Là. Station privée, c'était pas comme à Radio-Canada.
C'était détenu privée par Patonic à l'époque, si ma mémoire est bonne.
Non, Télécapital.
Télécapital.
Télécapital qui a vendu à Patonic. Patonic, ça n'a pas été une histoire très heureuse. Puis, juste auparavant, il y a une autre firme qui avait racheté Télécapital. Puis qui s'était sauvé avec le fonds de roulement, finalement. C'est ça qu'il voulait avoir, parce qu'il y avait un gros fonds de roulement dans l'entreprise. Puis ça faisait peut-être l'affaire des Pouliottes également, parce qu'eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est s'en aller à Montréal puis partir un gros réseau de télévision qui s'appelait V, qui s'appelle V maintenant, aujourd'hui. Alors, TQS à l'époque. Alors, eux autres, ils voulaient avoir leur bebelle à eux. Là, il y a le réseau TVA qui était embarqué là-dedans. Puis là, maintenant, ben, ça appartient presque toutes les stations à partir de maintenant.
Mais c'était quand même, pour avoir travaillé dans le même secteur, moi j'étais à CBGA Matane,
oui.
Et c'était une époque où il y avait beaucoup d'action, on était tous jeunes, on voulait percer dans le domaine.
T'es fou, fringant. Mais moi, j'avais tout le temps l'idée de m'en aller à Montréal.
Oui.
Moi, je voulais pas rester là toute ma vie, là. Je voulais partir, puis je voulais aller à Montréal, mais je savais pas comment faire. Puis à un moment donné, avec Patonic, il y avait ce qu'on appelle Café Chaud, qui venait de Sherbrooke, d'ailleurs. J'aimais pas ça, je voulais pas faire ça. Puis mon boss de l'époque avait dit, ben là, regarde, c'est de valeur, mais toi, tu vas faire des nouvelles, puis tu vas faire des sketchs aussi. J'ai dit, non, moi, je fais pas de nouvelles, puis je fais pas de sketchs en même temps. Je voyais pas comment l'acteur de nouvelles pouvait faire
question
des sketchs.
Question de notoriété, de crédibilité.
Ben, j'aimais pas ça.
Ouais.
J'aimais pas ça. Fait que, finalement, bon, d'un commun accord, je suis parti, puis je me suis en allé à Radio-Canada. 6 mois de temps.
À quel endroit?
À CJBR.
CJBR et Rimouski.
6 mois de temps.
Ouais.
6 mois, pourquoi? Parce que faire de la radio avec 40 personnes, j'ai bien de la misère. Tu sais, t'es animateur, puis t'as un script, t'as ci, t'as ça.
Mais vous étiez à Radio-Canada pour la radio.
Pour la radio. Pour je la faisais radio. Les samedis, dimanche matin. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça du tout.
Et après CJBR?
Là, je suis venu à Montréal souvent.
Mm-hmm.
Et là, je suis venu passer des auditions. Fait que là, j'arrive à CJMS. Puis là, j'ai dit, moi, je veux travailler à la radio, au sport. Puis la personne qui m'avait accueilli à cette époque-là a dit, écoute bien, jeune, les sports, t'auras pas d'avenir là-dedans, ici à Montréal. Fais autre chose, pense à autre chose. Fait que j'envoie une cassette à CFGL à l'époque, à Jacques-Charles Gilliot, qui me rappelle, une semaine après. Viens me voir. On va se parler. Fait que j'arrive, je repars de Rimouski, j'arrive de Montréal, à part. Repars de Rimouski, remonte à Montréal, je vais le rencontrer, il dit, j'ai un job pour toi. Il dit, le soir, tu vas remplacer Claude Barry à l'époque.
Être là au bon moment.
Ouais, mais je l'ai envoyé des cassettes à moi. Pas mal.
Ben, c'est toute une belle histoire. On va terminer ce premier bloc. Vous aimez Harmonium, ces années-là. Ouais. Histoire sans parole, qui provient de l'album La cinquième saison, a été reprise et adaptée pour le piano par Louise Alpin. C'est vraiment une adaptation majestueuse que vous avez probablement déjà entendue.
Oui.
Et on va se permettre de l'écouter. On se retrouve pour... après la pause, pour le deuxième bloc de cette émission.
Avec plaisir.